chemin de vie.
Chers auditeurs, nous voici déjà à la fin de la semaine et vous écoutez la rubrique chemin de vie. Notre invité Jacques Hostie explore la Bible du lundi au vendredi sur votre radio ou sur votre site internet. Au micro, Jean.
Ainsi que Heidi, et c'est Daniel qui est à la technique.
Toujours au chapitre 2 du livre d'Habacuc, notre lecture traite d'un sujet délicat, l'annonce du déclin de l'Empire babylonien. Irrité par les exactions commises par le peuple chaldéen, Dieu, par la bouche du prophète Habacuc, prononce contre eux un terrible jugement. Un message dur à entendre et pourtant si juste.
Écoutons à présent Gaëtan de Courrèges nous chanter « Un sou de foi », après quoi Jacques Hostie commentera ces quelques versets du chapitre 2.
Cartable en plomb, sciant le dos, 12 ans demain, chômeur bientôt. Tu fais la ville buissonnière, Barbès, Perrache ou Canebière.
Mais parfois,
cartable en plomb, sciant le dos, sur l'eau croupie du caniveau, tu vois des îles et des rizières, des galaxies et leurs mystères. Alors grandit au fond de toi, comme un soleil, comme une foi, un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, talents cachés, talents gâchés. Un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, trésors cachés à révéler. Entrebâillant tes cheveux gris, entre verveine et canaries, tu attends l'homme ou le mirage, puis le baiser sur ton visage.
Mais parfois,
entrebâillant tes cheveux gris, pour un voisin, pour un ami, tu mets le nez hors de ta cage et tu deviens mère courage. Alors grandit au fond de toi, comme un espoir, comme une voix. Un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, talent caché, talent gâché. Un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, trésors cachés à révéler. Amour en solde, échec en bois, montre quartier, smoking en soie, tu frimes en transe, robe express, Terminus Nord ou Jean Jaurès.
Mais parfois,
amour en solde, échec en bois, lorsque le cœur est aux abois, tu t'abandonnes à la tendresse d'une maman, d'une caresse. Alors grandit au fond de toi,
comme un amour, comme une joie.
Un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, talents cachés, talents gâchés. Un sou de foi, deux sous d'espoir, cinq sous d'amour. Dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, trésors cachés à révéler. Un sou de fois. 5 sous d'amour dans chaque histoire, il y a des trésors inexplorés, talents cachés, 1 sou de foi, 2 sous d'espoir, dans chaque histoire.
Il arrive que certains juifs très orthodoxes rejettent l'un des leurs en célébrant ses funérailles et en pleurant sur lui alors qu'il est bien vivant. C'est un peu ce qui arrive avec Babylone, capitale des Chaldéens, sauf qu'au lieu de se lamenter sur sa chute à venir, le prophète Habacuc écrit une série d'imprécations contre elle. Je continue à lire dans le second chapitre de sa prophétie. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour sa dynastie et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de toute calamité. Verset 9. Ici commence la seconde strophe de l'hymne funèbre. Dieu reproche aux Chaldéens leur arrogance qui se manifeste par leur volonté d'assurer pour toujours la domination de la famille royale par tous les moyens, et en particulier en accaparant un maximum de richesses, fruit de leur rapine. Établir son nid sur les hauteurs est une expression qui dénote à la fois la sécurité, la confiance en soi et l'orgueil. Contre le peuple édomite descendant d'Ésaïe, le prophète Jérémie écrit « La peur que tu inspires et ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines, oui, comme l'aigle, tu élèves ton nid. De là, je te ferai tomber, l'Éternel le déclare. » Il faut savoir que le roi Nabuchodonosor fit construire des fortifications très élevées pour protéger Babylone de toute invasion, ainsi qu'un magnifique palais royal pour lui-même. Ce monarque, tout comme ceux qui l'ont suivi, ont dépensé des fortunes pour améliorer les villes, édifices et temples de leur royaume. Un texte de l'Ancien Testament définit l'aigle de la façon suivante. Il fait du rocher sa demeure et établit sa forteresse sur une dent rocheuse. De là-haut, il épie sa proie. De loin, ses regards la découvrent. Ses petits s'abreuvent de sang. Où que soient les cadavres, il est présent. On croirait lire une description de Babylone. Je continue le texte. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Verset 10. Littéralement, tu as péché contre ta propre âme. Un proverbe dit, il se fait tort à lui-même, celui qui pèche contre Dieu. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Afin de s'élever jusqu'aux nues, les Chaldéens ont écrasé les autres nations. Mais leur objectif, qui était de soumettre tous les peuples afin d'assurer leur propre sécurité, est un cuisant échec, car une maison construite avec des corps mutilés et des squelettes desséchés n'est pas très confortable. Dans leur frénésie à ériger un empire à leur gloire, ils ont construit une mausolée à leur honte. Leur destinée ne peut donc être que la mort. Je continue avec la fin de la seconde strophe de l'oraison funèbre. Car la pierre criera de la muraille et de la charpente, la poutre lui répondra. Verset 11. Même des objets inanimés vont élever la voix pour dénoncer la méchanceté et l'avidité cruelle des Chaldéens. Nous sommes dans une cour de justice imaginaire, et Babylone comparaît devant le tribunal qui va prononcer son arrêt de mort. Les rois de Babylone, et surtout Nabuchodonosor, se sont lancés dans de vastes et ambitieux programmes de construction à leur gloire, mais aussi pour renforcer les murailles de Babylone et embellir les palais royaux. Parmi les témoins appelés à la barre sont les pierres des murailles ainsi que les poutres des charpentes de toutes les habitations que ces rois ont réalisées sur le dos des peuples captifs et avec les richesses qu'ils ont pillées. Mais même si le dernier des ennemis de Babylone était exterminé, les matériaux que les Chaldéens ont utilisés et qui sont le fruit de leur rapine seront toujours présents pour témoigner contre leurs mains rapaces. le nid d'aigle que Babylone s'est construit et qui abrite son arrogance sera jeté de son perchoir et ses palais somptueux seront transformés en tombes par le jugement de Dieu. La déclaration « La pierre criera de la muraille » a été littéralement accomplie durant le banquet qu'avait organisé Balthazar, le dernier roi babylonien. Alors que lui et ses grands festoyaient gaiement en vénérant des idoles et en buvant du vin dans la vaisselle sacrée du temple de Jérusalem, une écriture est soudainement apparue sur le mur de la salle, signifiant leur fin et celle de Babylone. Si les pierres peuvent témoigner contre un impie, elles savent aussi proclamer la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé quand le Seigneur a fait son entrée triomphale dans Jérusalem quelques jours avant sa mise à mort. Je lis le passage. « Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, » disait-il, « paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Le texte d'Habacuc continue avec la troisième strophe de l'hymne funéraire. Si on le rattache au verset précédent, on a « du sein des murailles, les pierres vont crier, de la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. » Versets 11 et 12. C'est comme si ce sont les pierres et les poutres des vastes chantiers de Babylone qui se mettent à chanter en chœur et d'une seule voix contre Babylone. Le prophète Jérémie exprime la même pensée quand il écrit « Malheur à l'homme qui bâtit sa maison par l'injustice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner ce que vaut son travail. » Les Chaldéens sont condamnés pour la violence de leur conquête parce qu'ils utilisent le produit de leur pillage pour étendre leur domination et parce qu'ils se conduisent comme des brutes à l'égard des esclaves. Les villes de l'Empire, et surtout Babylone, furent construites avec le sang et la sueur des peuples conquis et avec les richesses acquises par le crime. Les outils de ces vastes chantiers furent l'oppression et la tyrannie, le meurtre et le sang versé. Au vu du conseil que le prophète Daniel donne à Nabucodonosor, on se rend compte que la miséricorde ne faisait pas partie de ses traits de caractère. Je lis le passage. « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. » Les succès militaires babyloniens étaient accompagnés de violences gratuites. Les vaincus étaient mutilés, décapités ou empalés par dizaines de milliers et davantage étaient emmenés captifs. Ces derniers devenaient du matériel et des forçats qui devaient travailler jusqu'à la mort par épuisement. Les atrocités commises par les Assyriens d'abord, puis les Babyloniens ensuite, sont encore pires que ce qu'ont fait les nazis ou les Khmers rouges. La brutalité sauvage des Chaldéens a joué contre leurs intérêts, car en instaurant un règne de terreur, en multipliant les répressions par des bains de sang, ils ont déstabilisé l'Empire en semant la graine de la vengeance chez les peuples vaincus. Au lieu de se soumettre, ces derniers sont devenus tellement exaspérés qu'ils étaient prêts à tous les sacrifices pour détruire leurs bourreaux. Quand les Mèdes et les Perses, alliés aux Scythes et à bien d'autres peuplades, ont commencé leur marche victorieuse en direction de Babylone, ils ne faisaient pas de quartier et pas de prisonniers. Si on considère l'histoire de l'humanité, force est de constater que la façon dont l'homme se conduit montre qu'il est fou et méchant. Il tue ses congénères, son prochain et son voisin, et pense qu'il est dans son bon droit d'agir ainsi. Même si dans la prophétie d'Habacuc, il est question de la condamnation de Babylone, celle-ci peut être étendue, mise à jour et adaptée pour aller comme un gant à n'importe quelle nation. Je continue le texte. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes ? Verset 13. Au beau milieu des cinq strophes de l'oraison funéraire, l'attention du lecteur est portée vers l'Éternel qui, en tant que Seigneur des armées, est le véritable souverain de toute la terre. Du haut de son trône, il explique l'aboutissement final des plans grandioses des rois de Babylone. Comme je l'ai dit, depuis Nabucodonosor jusqu'à Balthazar, tous les souverains babyloniens ont dépensé beaucoup de temps et d'énergie à planifier de nouvelles constructions, ce que les historiens antiques et les découvertes archéologiques confirment. Tous les efforts fournis par les architectes et chefs de corvée, tous les travaux pénibles imposés aux esclaves sont vains, car ils serviront à nourrir un gigantesque brasier qui détruira tout. Le prophète Jérémie écrit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les larges murs de Babylone seront démantelés. Ses hautes portes seront la proie des flammes. Les peuples travaillent pour rien. Les nations se fatiguent pour ce qui périt par le feu. » Les immenses pierres soigneusement taillées serviront d'autels de sacrifice et les décorations en bois sculpté de fioul pour alimenter l'holocauste gigantesque qui réduira Babylone en cendres. Je continue le texte. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Verset 14. La prophétie garde l'attention du lecteur fixée sur Dieu, car c'est lui qui décide ce qui doit arriver dans la suite des temps. Habacuc établit ici un contraste. D'un côté, Babylone est détruite et tout le travail de plusieurs générations de Chaldéens et de peuples soumis a fini en un tas de cendres dans un coin du monde. D'un autre côté, la gloire de l'Éternel remplira la totalité de la terre. La déclaration d'Habacuc reprend à quelques détails près l'affirmation du prophète Ésaïe, son prédécesseur, qui a écrit « On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Mais pour que ce glorieux avenir se réalise, il faut que l'Éternel ait détruit l'empire chaldéen, bien sûr, mais aussi toutes les puissances terrestres qui s'opposent à lui. L'ange qui explique à Daniel la signification de la statue pulvérisée par une pierre lui a dit « À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. » Mais lui-même subsistera éternellement. Il faut garder à l'esprit que dans la conception du monde des païens du Moyen-Orient, la prospérité d'une nation était étroitement liée aux divinités locales. À leurs yeux, rien ne pouvait mieux démontrer la faiblesse d'un dieu que son incapacité de protéger ses adorateurs du malheur. Quand l'aide de camp du roi d'Assyrie est venue assiéger Jérusalem, son langage montrait bien qu'il était absolument convaincu de la supériorité des dieux assyriens. Il a dit « N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm, de Héna et d'Iva ? Ont-ils délivré Samarie ? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem ? » Fin de citation. Il s'ensuit qu'aux yeux des païens, la supériorité de l'Éternel sur les autres dieux, sur ceux des Chaldéens en particulier, sera reconnue quand Babylone, la capitale d'une nation puissante, conquérante et toujours victorieuse, disparaîtra dans les flammes sous un amas de cendres. La prophétie d'Habacuc, comme celle d'Ésaïe, ont également en vue l'établissement du royaume de 1000 ans du Messie. Mais juste avant l'instauration de son règne, Dieu jugera la Babylone reconstituée de la fin des temps, et avec elle tous ses ennemis. La gloire de Dieu et sa majesté se manifesteront alors pleinement au monde entier. Je lis de passage. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Fin de citation. Quand le Messie régnera, la connaissance du Seigneur sera sur toute la terre. Le prophète Jérémie écrit « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Cette connaissance sera aussi étendue que l'eau qui remplit les océans. Les récifs acérés de l'injustice des hommes et les algues gluantes du péché seront recouverts par la mer douce de la justice de Dieu. Je continue le texte avec la quatrième strophe de l'hymne funéraire contre Babylone. « Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui y ajoute ton poison pour pouvoir contempler sa nudité !» Verset 15. Habacuc reprend la description des actions barbares des Chaldéens. Il n'est pas question ici de beuverie au sens propre du terme, mais de langage figuratif. Avec ces images, le prophète veut montrer l'inhumanité et l'indignité avec lesquelles Babylone traitait les nations conquises. L'impuissance d'un homme ivre gisant par terre décrit la défaite d'un peuple vaincu, et sa nudité découverte est l'image du déshonneur qu'il atteint. Non seulement les Chaldéens pillaient les autres peuples et en faisaient des esclaves, mais ils utilisaient la ruse et la traîtrise pour les humilier et leur enlever la moindre trace d'honneur qu'il leur restait en les forçant à commettre les actes les plus vils. On retrouve certaines de ces caractéristiques dans la Babylone de la fin des temps, au sujet de laquelle l'apôtre Jean dit qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Je continue le texte d'Habacuc. « Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère de la main droite de l'Éternel. » La pire ignominie, un vomissement honteux recouvrira ta gloire. Verset 16. On se moquera du peuple chaldéen qui sera la risée des autres nations. En hébreu, l'expression « on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision » est particulièrement crue. Pour les juifs, un tel acte était le pire de tous les déshonneurs, le summum de l'avilissement. Les incirconcis étaient considérés comme rejetés et abandonnés par Dieu et suscitait le plus grand mépris. C'est pour cette raison qu'au temps de Jésus, les Israélites de Judée dédaignaient les Samaritains. Babylone devra boire la coupe de la main droite de l'Éternel. Cette métaphore, fréquente dans les textes sacrés, décrit la rétribution divine accomplie par la toute-puissance de sa main droite. Œil pour œil et dent pour dent. Tout le mal que Babylone a fait lui sera rendu. La loi du talion lui sera appliquée. Ce que les Chaldéens ont imposé aux autres, ils le subiront à leur tour. Je termine la quatrième strophe de l'oraison funèbre. Tu seras submergé par la violence même que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Verset 17. Le Liban, qui est situé au nord d'Israël, était connu pour ses magnifiques forêts de cèdres et ses animaux sauvages. Mais après avoir conquis ce territoire, les Chaldéens avaient carrément tondu de grands espaces boisés afin d'en retirer le bois pour leurs constructions incessantes, ce qu'avaient également fait les Assyriens avant eux. Prophétisant la fin de Babylone, le prophète Ésaïe écrit « Les cyprès mêmes sont heureux de ta chute, et les cèdres du Liban disent « Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre ». Par la même occasion, les Chaldéens avaient fait un massacre parmi les animaux pour se nourrir, mais aussi par plaisir. Assoiffés de sang, ils tuaient tout ce qui avait vie, êtres humains, animaux et végétation. Mais le pire est leur crime contre les hommes en général et les Israélites en particulier. Dieu se soucie de toute sa création et nous devons faire de même, aimer notre prochain et manifester un souci écologique.
Daniel Piala chantait ce titre, Jésus, j'élève ma voix vers toi.
Voilà que notre rubrique s'achève pour aujourd'hui. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous appeler pendant les heures de bureau au 09 50 31 62 62, appel gratuit depuis une box.
09 50 31 62 62. Vous pouvez aussi visiter notre site chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout attaché. Il est temps maintenant de laisser la place au programme suivant. Nous vous disons au revoir et à lundi.